Bonjour à tous, chers auditeurs. Je suis Vina Vienne, la rédactrice du blog La Franco-Indienne. Je vous souhaite la bienvenue sur ce premier podcast. J'ai eu le plaisir d'interviewer Madame Véronique Roger-Lacan, qui est ambassadrice déléguée permanente de la France auprès de l'UNESCO. Madame Roger-Lacan n'a jamais vécu en Inde, mais ses parents sont originaires de Pondichéry, au sud de l'Inde. J'ai voulu l'interviewer pour savoir si elle a gardé des liens avec l'Inde et quel regard elle porte sur sa double culture. Je vous invite à écouter l'interview et me laisser un commentaire, mettre un petit like et partager si vous avez apprécié ce podcast. Oui, bonjour madame.
Allô?
Oui, est-ce que vous m'entendez?
Oui, bonjour. Oui, je vous entends.
Merci beaucoup, je sais que vous êtes très occupée, donc merci pour votre temps. Alors, je vais commencer d'abord. Quelle était la place de la langue française et de la langue tamoule dans votre enfance et durant votre jeunesse?
Alors, mes parents parlaient tamoul avec un accent français. Et les rares fois où je suis allée en Inde avec ma mère, parce que mon père est décédé très tôt, elle me disait « je vais te conduire dans les rues de Pondichéry », etc. Et en fait, les gens ne la comprenaient pas, parce qu'elle parlait très mal. Et du coup, ça signifie, et j'ai eu l'explication après, ça signifie que le parti pris de ma famille, de mes parents, surtout de mon père, a été d'apprendre à parler le français uniquement et d'en finir avec leur lien avec Pondichéry, qui, d'après ce que je comprends, les avait fait souffrir toutes les questions d'exil, de départs successifs de l'Inde, des postes où ils avaient été auparavant, de leur famille, avait été un peu compliqué à gérer.
Vous avez encore de la famille ici?
Très peu, j'ai encore une vieille tante, des cousins, des cousines qui reviennent en Inde à Pondichéry parce qu'ils ont retrouvé ou ils ont hérité de maisons de leurs parents décédés, etc. Mais moi, de famille directe, je n'en ai plus.
Que vous me dites que vous n'avez jamais vécu, mais est-ce que vous avez gardé des souvenirs marquants avec l'Inde?
Les fois où je suis allée à Pondichéry, donc c'était pour découvrir Pondichéry, parce que je n'y étais jamais allée sauf enfant, donc j'y suis allée vers 18-20 ans pour la première fois. Et là, j'ai séjourné dans la maison d'une de mes tantes éloignées, d'une cousine de ma mère, qui habite rue Suffren. Elle est décédée maintenant, mais sa fille a repris la propriété de la maison. Donc c'est une très belle maison, dans laquelle ma mère avait des souvenirs, parce que c'était une maison qui appartenait à quelqu'un qui l'avait élevée, ou dans la une maison dans laquelle elle avait pas mal vécu.
Mmh. Et pourquoi est-ce que...
Et puis...
Je vous laisse finir.
Et puis, du côté paternel, un de mes oncles est retourné en Inde. Il est décédé maintenant. Et donc, je lui ai rendu visite pas mal. Donc, il habitait aussi rue Suffren. Donc...
D'accord. Et vos parents, pourquoi ? Ils vous ont expliqué pourquoi ils n'ont pas fait le choix de revenir en Inde ou de passer du temps en Inde ?
Mais ce que je vous disais au début de la conversation, c'est le même choix que pour le choix de la langue française. C'est que vraisemblablement, ils avaient été un petit peu secoués par les exils successifs, parce que pas mal de familles de Pondichéry et de notre famille avaient été en poste au Vietnam. Et donc ça avait été un premier exil. Ensuite, après la guerre du Vietnam en 1954, ils sont retournés en Inde. À ce moment-là, c'était l'indépendance de l'Inde et les territoires français en Inde étaient en passe aussi d'être rétrocédés à l'Inde. Et puis, une fois qu'ils sont arrivés en France pour leurs études, etc., ils ont décidé qu'ils seraient des Français à 100%, qu'ils ne...
de
ne ferait
vivre.
pas d'aller-retour entre l'Inde et la France. C'était un choix, je pense, psychologiquement plus sécurisant pour eux, et ils ont considéré qu'eux avaient souffert d'être entre les deux cultures, et que pour leurs enfants, donc ma sœur et moi, ils ont souhaité que nous soyons françaises sans aucune ambiguïté et sans aucune autre racine. Mais en fait, ma mère, quand mon père est décédé, je pense que c'est peut-être plutôt mon père qui avait fait ce choix, mais quand mon père est décédé, j'avais 18 ans, elle nous a emmenés en Inde tout de suite. Et ça a été là mon premier voyage à Pondichéry, où je suis allée voir les uns et les autres, rue Lal Bahadur, rue Suffren, dans les maisons diverses. Et pour moi, c'était passionnant.
Et vous, quel choix vous avez fait pour vos enfants?
J'ai pas eu de choix à faire parce que comme mes parents avaient fait le choix pour moi, si j'avais opéré, c'est pas un retour en arrière, mais un retour vers ses racines. Ça aurait été vraiment assez compliqué en termes psychologiques, logistiques, culturels, parce que j'étais complètement ancrée. Ma vie était complètement ancrée en France, mais en revanche, c'est vrai que ça m'a intéressé d'aller voir d'où je venais, qui était ma famille, qui était encore là-bas, etc. Et bien évidemment, ça m'a passionnée de regarder tout ça. Le monde indien m'a passionnée. Donc j'ai étudié le hindi au Langso. J'ai pas étudié le tamoul. Donc c'était pas un vrai retour vers mes
Racine.
racines familiales, mais c'était un mouvement vers l'Inde. Et puis ensuite, j'ai pas mal travaillé sur l'Inde. J'ai été au Quai d'Orsay sous-directrice d'Azimé Méridional. Et là, ça a été un de mes plus beaux postes, notamment parce que j'avais ce lien avec l'Inde que je trouvais très passionnant. Et je reviens à la question que vous posiez tout à l'heure, qui était, voilà, quel choix avez-vous fait pour vos enfants? Donc, j'ai pas fait de choix, c'était naturel. Et je me suis mariée, j'ai un époux français. Et donc, voilà, les choses vont dans ce sens-là. Mais ce qui est évident, c'est que j'ai quelque chose de différent. Je ne suis pas française de sang. J'aime la cuisine indienne qu'a préparée ma mère pendant des années et qu'elle me prépare encore. Mais elle préparait aussi de la cuisine vietnamienne. J'ai pris des recettes, j'ai beaucoup de tantes ici. Je pense que les gens de ma génération, tous mes cousins, etc., avons chacun, pas tous, mais pour la plupart, épousé des personnes qui n'étaient pas des Pondichériens ou des Indiens. Et donc, notre vie de couple et familiale nous a conduit vers de nouveaux horizons. Et pour terminer sur mes enfants, ils me posent beaucoup de questions. Ça les intéresse beaucoup et ils me demandent, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu tel cousin? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu telle tante? Etc. Et ça les intéresserait de faire un petit voyage avec moi à Pondichéry, en Inde.
Donc, vous êtes en fait ambassadrice à l'UNESCO. Est-ce que...
C'était déléguée permanente de la France auprès de l'UNESCO.
Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous parler?
Ambassadrice déléguée permanente.
Oui, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de votre métier?
Bon, alors le métier d'ambassadeur de France, non, d'ambassadeur à l'UNESCO, c'est un métier qui est exercé donc par 193 ambassadeurs, puisque l'UNESCO est une organisation du système des Nations Unies qui regroupe 193 États. Premier métier d'ambassadeur, on dit dans le multilatéral, dans le jargon diplomatique, il y a des ambassadeurs multilatéraux et des ambassadeurs bilatéraux. Et dans le multilatéral, nous sommes des ambassadeurs auprès d'une organisation internationale. Donc la première partie du job, c'est de connaître tous ses homologues, de connaître les positions de tous les États et de faire de sorte qu'ensemble, que le uni de Nations Unies soit réel et qu'ensemble on puisse mettre en œuvre les objectifs et les principes de l'acte constitutif de l'UNESCO, qui est en gros l'article La première phrase du préambule dit c'est dans l'esprit des hommes que naissent les graines de la discorde et de la guerre. C'est dans les esprits des hommes et des femmes que l'on doit semer les graines de la paix par le biais de l'éducation, de la science et de la culture.
Et est-ce que vous avez choisi cette carrière ou est-ce qu'il y a eu une influence de la part de votre famille ?
Je pense qu'il y a eu une influence de la part des circonstances, puisque le côté française d'origine indienne, avec une histoire de colonisation, d'exil successif. Mmh. Plus mon père avait été en poste, il a été en poste en Éthiopie, mmh. où j'ai commencé ma scolarité, enfin où j'ai, je suis arrivée à l'âge de 6 ans, ensuite au Maroc. Ça m'a j'étais née au Vietnam, donc mmh. tout ça m'a influencé beaucoup et j'ai eu envie de faire un métier qui traitait de relations internationales. Et les pays dans lesquels j'ai séjourné ont été des pays en crise. Mmh. Guerre du Vietnam, révolution en Éthiopie, il y a eu des émeutes au Maroc quand j'y ai séjourné. Mmh. Et au fur et à mesure, en tout cas à chaque gestion de ces crises, j'entendais qu'il existait une organisation des Nations Unies qui pouvait gérer ces conflits. Et que les diplomates étaient au chevet des pays en guerre. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était un beau métier pour essayer de traiter de la paix et de la sécurité sur la planète.
Est-ce que en tant que femme et en tant que personne d'origine indienne, est-ce que vous avez fait face à des discriminations ?
Jamais.
Jamais.
Jamais, et je pense, alors ça c'est vraiment ma vision toute personnelle, je pense que ça dépend de la façon dont soi-même, en son fort intérieur, on vit ces choses-là. Si on considère qu'être une femme et être d'origine spécifique, c'est un atout,
oui.
Eh bien on en fait un atout et on ne souffre jamais de discrimination. Je sais que ma petite sœur, elle, avait une personnalité tout à fait différente et qu'elle a souffert de discrimination. En tout cas, elle avait l'impression que sa mmh. couleur à l'école lui causait des problèmes. D'accord. À un certain moment, quand elle était petite, ça n'a pas été toujours le cas.
Mais oui, parce que Donc, en fait, je vous pose cette question. Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites, que c'est une vision personnelle des choses. Et puis aussi, est-ce que c'est lié aussi à un milieu ? Est-ce que le fait que vous avez été dans un milieu quand même où, avec vos parents, vous avez toujours rencontré des gens différents, étrangers, etc. Est-ce que c'est lié aussi au statut social ?
En effet, j'ai vécu toute mon enfance dans des lycées français à l'étranger. Donc, en effet, c'était très mélangé, oui. les lycées français à l'étranger, donc oui. peut-être, mais j'avais oui. l'impression que mes parents vivaient une vie harmonieuse avec tous leurs collègues. Oui. Quand on est rentré en France, on était franchement dans une zone pas hyper favorisée, mais j'ai pas eu de soucis. Je sais pas oui. très bien.
Mais c'est une grosse question actuelle aussi, pareil, parce que je suis un peu ce qui se passe dans les réseaux, dans la communauté indienne et franco-indienne et sud-asiatique. Donc il y a beaucoup ces questions-là de discrimination qui apparaissent. Et c'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir votre point de vue, oui. Donc je continue là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'on peut parvenir à des postes très importants dans l'État ? De l'État, en se basant seulement sur des compétences ou faut-il des recommandations, une certaine influence qui fait la différence, qui prime ? Ou est-ce que seulement les compétences suffisent ? Ça, c'est un ressenti personnel.
Pardon ?
C'est votre ressenti personnel.
Non, les compétences priment, bien évidemment. Mais ensuite... Il y a une chose qui est importante dans ce que vous dites, c'est l'entraide. Moi, j'ai toujours eu comme politique, en tout cas, à chacun de mes postes, d'écouter et d'accueillir et d'aider le plus possible les étudiants, les personnes qui demandent voilà, un conseil, un stage, un tuyau, de pouvoir de leur parler. Après, c'est pas moi qui nomme, et notamment pour les stages au Quai d'Orsay, ça se fait pas comme ça. On peut pas recruter n'importe qui que ce soit en stage sans passer par la centrale, mais être toujours présent et à l'écoute. Ça, je l'ai toujours fait. Ça s'institutionnalise un petit peu. Par exemple, on a au Quai d'Orsay une association qui s'appelle Femmes et Diplomatie, qui a été créée par des femmes diplomates qui estimaient que les femmes étaient mal servies dans la diplomatie française. Mmh. Et leur combat a servi à rééquilibrer les choses.
D'accord. Mais vous aussi, vous avez créé une association, n'est-ce pas, en 2017, de parrainage d'apprentis diplomates. J'ai lu ça.
Exactement, oui.
Elle est toujours active, l'association?
Alors, j'espère, parce que depuis que j'ai quitté Vienne, j'ai laissé ça en héritage à mes collègues ambassadrices à Vienne.
Oui.
Et notamment à l'association qui avait abrité ça, qui était Women in International Security, WIS.
Oui.
D'après ce que je comprends, c'est encore ça fonctionne. Et je voulais faire la même chose, créer une branche ici à l'UNESCO, mais j'ai pas eu le temps.
Vous êtes active dans l'association du Quai d'Orsay. Vous êtes vous parrainez encore ou pas des femmes ou ça a été ponctuel?
Oui, j'ai eu deux. Oui, non, j'ai eu deux filleules entre guillemets. Mais là, leur carrière a été lancée. Elles ont trouvé leur poste. Elles sont heureuses et
Est-ce que justement dans ces diplomates, il y a des personnes qui ont des origines étrangères et qui sont françaises parmi ces personnes-là?
Oui, la dernière, c'était une jeune femme d'origine algérienne, si je me souviens bien.
Et comment elles vivent leur double culture? Est-ce qu'elles sont plus, elles se sentent beaucoup plus françaises, assimilées ou comment vous ressentez les choses avec ces femmes quand vous avez discuté?
Je pense que dans la diplomatie, il faut se sentir vraiment très français, parce que sinon, si on a des soucis d'allégeance entre guillemets, c'est un peu compliqué d'être diplomate.
Oui, hein, parce que vous représentez un État, exactement, oui, c'est ça, exactement.
Bah oui. Donc là, moi j'ai pas du tout perçu de soucis d'allégeance. Il y avait pas de...
Parce que justement, le fait d'être de double culture, on peut favoriser, je sais pas, un état, son état d'origine, on peut finalement, ça pourrait le faire. Et c'est pour ça que je pose cette question, mais vous me dites non. Finalement, les personnes, en tout cas, que vous avez rencontrées, elles se sentent vraiment françaises et elles sont là pour servir l'État français.
Mais oui, de toute façon, le recrutement dans la diplomatie, c'est ça. On représente la France à l'étranger, donc on ne va pas se mettre à, si on est franco-indien ou franco-algérien, à représenter l'Inde. Non, c'est pas possible.
Oui.
C'est juste pas impossible.
Oui.
Éthiquement et...
Ouais. Oui, bien sûr, je comprends. Ouais. Du coup, vous vous sentez complètement française, hein? Alors, est-ce que vous vous sentez française à 100%? Ça, c'est une petite question.
Ah oui, à 100%. 200% même.
Ah ouais. Et donc, vos origines indiennes, vous les mettez au placard ou vous en avez
Mais
pas
non,
de
pas
ressenti?
Du tout, au contraire, je m'en sers. C'est ça, la France. Ah. La France, c'est un pays divers et qui est composé de personnes avec des horizons différents. Et c'est c'est pour ça que je trouve que la France est un beau pays.
Est-ce que vous
à
avez...
tous égards.
Ouais, mais c'est très bien ce que vous dites, parce que bon, c'est un autre regard, c'est une autre vision des choses. Donc c'est très intéressant. Est-ce que vous avez d'autres projets où vous êtes vraiment très très occupé déjà par votre travail?
Quand mes enfants étaient petits, forcément, je faisais des des travaux manuels avec eux, j'essayais de leur fabriquer des choses diverses et j'ai commencé à leur fabriquer des maisons de poupées en papier mâché. Et là, et c'est là, ça c'est intéressant parce qu'on sait que le papier mâché, c'est une technique d'artisanat et d'art indien. Et j'ai continué du coup parce que ça m'a plu, je trouvais ça, je créais des univers et je pense que je créais des univers très indiens.
Ah,
En
ben
tout
c'est
cas très
intéressant.
coloré, voilà, avec
Est-ce que vous
beaucoup
avez
de...
exposé vos réalisations ou vous
Alors
les avez
non, je ne les ai
montrées?
pas exposées, mais j'ai une amie qui est cambodgienne et qui est galeriste qui voudrait organiser cette exposition. Donc c'est... Voilà, ça c'est un de mes projets très chers. Et c'est un projet qui me lie à mes origines.
Indienne.
Voilà, mes origines larges du monde.
Ah, d'accord, c'est intéressant. Pourquoi large? C'est-à-dire, vous m'avez dit que c'était.
C'est-à-dire que c'est un des horizons élargis.
Pas dû à vos voyages, à vos
Oui,
expériences.
c'est ça. Et
D'accord.
au fait que je pense l'origine indienne est un petit peu presque un fantasme.
Avant-dernière question. Quelques conseils que vous aimeriez donner pour les femmes qui veulent se lancer dans des carrières diplomatiques, si elles doivent avoir trois qualités essentielles, quelles seraient-elles?
Oh là, détermination, ouverture d'esprit, curiosité, et patience.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment les qualités à avoir.
Moi, générosité, je trouve que c'est important d'accueillir et d'être généreux, très important.
D'accord, très
On
bien.
manque un peu de générosité dans notre monde,
Ah
voilà.
oui, c'est vrai. Dernière question, comment vous pourriez vous... comment dire, si on vous demande de vous présenter, comment vous vous présenteriez? Ah, c'est étrange, hein, je vous pose la question en dernier, mais comme ça, si on vous dit vous présentez, comment vous présentez à quelqu'un?
C'est-à-dire en une phrase, en un mot,
Comme vous
en un
voulez,
paragraphe.
comme vous voulez, en des mots en vrac ou en des phrases, comment vous définiriez-vous? Parce qu'on n'est pas très nombreux en fait. Des Français qui ont un petit peu des origines indiennes et qui ont de belles carrières ou qui sont en tout cas dans des postes très importants de l'État. Donc c'est pour ça que je vous demandais comment est-ce que vous ressentez les choses.
Et alors du coup, dans ce cas, à rajouter quelque chose. Dans ce cas, c'est femme française d'origine indienne et ambassadrice de France et fière de l'être. Ça, c'est un... Oui.
D'accord. Ouais, ça c'est très important aussi, parce que moi je suis comme vous, j'aime
Ouais.
beaucoup beaucoup la France. Merci beaucoup en tout cas. Mais je vous souhaite une bonne
Bon.
après-midi.
Merci. À
Merci.
bientôt.
Au
Au
revoir.
revoir.
Au revoir madame. Merci à tous chers auditeurs d'avoir écouté cette interview. N'hésitez pas à commenter, liker et partager si vous avez aimé ce podcast. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook et mon compte Instagram, La Franco-Indienne. Je vous retrouve très bientôt avec un nouveau podcast et le meilleur de l'Inde.